VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 4 juillet 2017, Independence Day, jour anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Jean-Roger Bion pour commencer les titres.
La FIDH tire la sonnette d'alarme sur la situation au Burundi.
En Côte d'Ivoire, fin du mandat de la Commission nationale de réconciliation.
Au Burkina Faso, les députés de l'opposition ont boycotté hier une séance de l'Assemblée nationale.
Sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le roi du Maroc veut une vision africaine commune sur la migration.
Nouveau tir de missile balistique nord-coréen.
Et le Qatar a remis sa réponse aux exigences de l'Arabie Saoudite et de ses voisins arabes. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant. Le journal.
Burundi, la Fédération internationale des droits de l'homme a résumé ainsi la situation dans ce pays. Épuration ethnique de l'armée, opposants réduits au silence et modification de la constitution pour faire sauter la limite des mandats présidentiels. Et la FDH d'avertir hier que le régime burundais s'enfonce dans la violence et transforme le pays en dictature. Elle attribue une part de responsabilité à la communauté internationale, à son manque de fermeté et à son incapacité à mettre en œuvre ses propres décisions.
Le gouvernement burundais a toujours rejeté les allégations des organisations de défense des droits de l'homme, les qualifiant notamment de tentatives de division du peuple burundais, de fabrication et de médisance.
Le mandat de la Commission nationale de réconciliation en Côte d'Ivoire s'est achevé lundi sur un bilan généralement jugé mitigé. Tatiana Mosso.
Des responsables de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire, la CONARIVE, ont effectué une passation de pouvoir en remettant les archives de la Commission à leurs homologues du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. La CONARIVE a recensé plus de 300 000 victimes des crises survenues dans le pays entre 1990 et 2011. La courte cérémonie s'est faite à son siège à Abidjan en l'absence de son président et de la ministre de la Solidarité, Maria Toukoné. Annoncé depuis 2015, le processus d'indemnisation des victimes a pris du retard. Aucun chiffre sur le montant total n'a été donné. Le président Ouattara avait annoncé fin 2014 la création d'un fonds d'une quinzaine de millions d'euros pour les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. L'opposition pro-Gbagbo accuse le pouvoir d'avoir procédé à une justice des vainqueurs et estime que la véritable réconciliation reste à faire.
Au Burkina, les députés de l'opposition ont quitté l'Assemblée nationale lundi pour protester contre l'examen d'un projet de loi visant à alléger les procédures de contractualisation publique-privée, estimant que le texte favorisera la corruption. Au terme de la séance, la loi a été votée à l'unanimité des 76 votants, les 44 députés de l'opposition n'ayant pas réintégré l'hémicycle. Vendredi, l'opposition avait menacé de descendre dans la rue si le parti au pouvoir persiste dans sa démarche de pillage et, je cite, « d'insouciance en votant la loi ».
Le journaliste nigérien Ali Soumana, fondateur de l'hebdomadaire privé, Le Courrier, connu pour ses critiques contre le régime de Niamey, a été écroué lundi. Il est accusé de soustraction frauduleuse d'une pièce relative à une bataille judiciaire opposant le Niger et une société libanaise. Le contentieux concerne la résiliation en 2012 par le Niger d'un marché de fabrication de passeports biométriques attribué en 2011 à la société libanaise Africad par le ministère nigérien de l'Intérieur.
Pour rester au Niger, le désert du Ténéré est un mouroir pour les migrants africains sur la route de l'Europe via la Libye. Une trentaine d'élus de la région d'Agadez tirent la sonnette d'alarme au Bagassi Koura.
37 élus du Conseil régional d'Agadez ont publié un communiqué disant que le Ténéré nigérien devient un véritable cimetière à ciel ouvert pour les bras valides d'Afrique de l'Ouest et du Centre attirés par le mirage européen. Entre mai et juin, 52 migrants, dont des bébés, ont été retrouvés morts dans le désert. 51 autres migrants portés disparus il y a 2 semaines après avoir été abandonnés sans eau sont probablement morts de soif. Les élus d'Agadez demandent donc à la CEDEAO de prendre des mesures consensuelles pour barrer la route à ces jeunes. Agadez, porte du Sahara, est souvent un passage obligé pour ceux qui tentent de gagner l'Europe. Pour lutter contre les trafiquants, Niamey a adopté en 2015 une loi sévère pénalisant leurs crimes jusqu'à 30 ans de prison. L'armée effectue des patrouilles pour intercepter des convois transportant des clandestins, mais rien n'y fait.
Le roi du Maroc veut une vision africaine commune sur la migration et va faire aux autres pays africains des propositions en ce sens. Des milliers de jeunes Africains tentent clandestinement de gagner la rive nord de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure avec tous les risques que l'on connaît, a déclaré Mohamed Sis dans un discours relayé par les médias publics marocains.
Le destin de nos jeunes est-il au fond des eaux de la Méditerranée ? Leur mobilité doit-elle devenir une hémorragie? Il nous appartient au contraire de la gérer pour en faire un atout, a plaidé le souverain dans ce discours lu par son frère Moulay Rachid et représentant au sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert lundi à Addis Abeba.
En Tunisie, 2 policiers ont été blessés hier et 47 personnes interpellées dans des heurts dans le centre de Tunis entre des marchands ambulants et les forces de l'ordre. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Environ 300 marchands ambulants étaient rassemblés devant le siège du syndicat UGTT pour exprimer leur colère face à l'interdiction des étals anarchiques. Les forces de l'ordre sont intervenues. Les manifestants ont jeté des pierres sur la police qui a riposté avec des tirs de gaz lacrymogène. Le gouvernorat de Tunis avait mis en garde le 19 juin contre l'exploitation anarchique des espaces publics, lançant un ultimatum de 5 jours. D'autres municipalités comme La Marsa, en banlieue de Tunis, ou Sousse à l'Est, ont mené des campagnes similaires. Les vendeurs de rue ont proliféré dans un contexte social marqué par la pauvreté et le chômage. Fin 2010, l'immolation par le feu d'un vendeur ambulant, excédé par la misère et les brimades policières à Sidi Bouzid, a été le déclenchement de la révolte qui a mis fin au règne de Zine El Abidine Ben Ali et marqué le début de ce qui sera appelé le printemps arabe.
Et puis, des sauveteurs étaient à la recherche lundi de 14 mineurs bloqués sous terre après l'effondrement d'un puits de mine clandestin au Ghana. L'incident s'est déroulé dans la ville de Prestia Nsuta, dans le sud du pays, où se trouve la mine abandonnée qui s'est effondrée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a affirmé avoir testé aujourd'hui avec succès un missile balistique intercontinental ICBM, étape cruciale vers la réalisation de son objectif qui est de pouvoir menacer les États-Unis du feu nucléaire. L'essai historique, et je cite, d'un missile Hwasong-14 a été supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a annoncé une présentatrice de la télévision publique nord-coréenne dans un bulletin spécial. Malgré les résolutions et sanctions des Nations Unies, Pyongyang persiste et signe. Le président Donald Trump a toujours averti qu'il n'écartait aucune option, y compris l'option militaire. Et selon l'AFP, M. Trump a demandé sur Twitter à Pékin de mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes.
Par ailleurs, le président Trump doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel avant le sommet du G20 de cette semaine à Hambourg, en Allemagne. Selon le porte-parole de Mme Merkel, cette rencontre pourrait avoir lieu jeudi soir dans des conversations téléphoniques séparées hier avec Angela Merkel et le premier ministre italien Paolo Gentiloni. Le président américain a discuté avec eux de questions climatiques et commerciales ainsi que du financement de l'entrepreneuriat féminin. M. Trump s'est aussi entretenu par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron.
En Syrie, les forces soutenues par les États-Unis et qui tentent de reprendre Raqqa aux djihadistes du groupe État islamique ont ouvert des brèches dans le mur qui entoure la vieille ville, a annoncé lundi l'armée américaine. Selon un communiqué du commandement des forces américaines au Moyen-Orient, le CENTCOM, il s'agit de 2 brèches dans la partie la plus lourdement fortifiée de Raqqa.
En Irak, pendant ce temps, les forces irakiennes ont du mal à avancer dans la vieille ville de Mossoul, face à la multiplication des attentats suicides menés par les djihadistes qui luttent pour leur survie dans leur dernier bastion urbain d'Irak. Il s'agit de l'ultime phase de la bataille de Mossoul, lancée il y a plus de 8 mois par l'armée irakienne. Les djihadistes ne contrôlent plus qu'un petit secteur de la vieille ville dans l'ouest de la cité septentrionale.
Le Qatar a donné sa réponse aux exigences de l'Arabie Saoudite et de ses alliés, et ceux-ci doivent décider demain, mercredi, après l'avoir examiné, s'ils lèvent ou non leurs sanctions contre Doha. La réponse du Qatar, dont la teneur n'est pas connue, a été remise hier, lundi, au Koweït, le Koweït qui assure une médiation dans cette crise entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Arabie Saoudite et leurs voisins. La Minute Éco.
Au Nigeria, le gouvernement du plateau va débourser près de 110 millions de dollars durant l'exercice fiscal en cours pour construire 16 routes. Selon le commissaire chargé des transports, des mesures ont été instaurées afin que les contrats relatifs au projet soient attribués aux prestataires appropriés. La Tunisie a annoncé hier qu'elle suspend ses subventions au carburant. Ce choix va entraîner une hausse de 6,7% du prix du pétrole, mais il permettra au pays de réduire son déficit budgétaire. En mettant fin aux subventions, le pays se conforme aux directives du FMI qui, le mois dernier, a versé 320 millions de dollars à la Tunisie dans le cadre d'un prêt global de 2,9 milliards de dollars. Les Tunisiens vont désormais acheter le litre d'essence sans plomb à 405 francs CFA contre 380 francs CFA avant l'arrêt des subventions. Il s'agit de la première hausse du prix du carburant en 3 ans en Tunisie. Après le Gabon et le Cameroun, le Tchad devient le 3e pays producteur de pétrole dans l'espace CEMAC à bénéficier du programme d'aide du FMI. Affectée par la chute des prix du pétrole, dont elle est très dépendante, l'économie tchadienne va bénéficier d'un prêt de 312 millions de dollars du FMI sur les 3 prochaines années. L'objectif de cette opération est de stimuler les recettes publiques tchadiennes en soutenant le programme national de diversification de l'économie.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Hearts of Oak d'Accra, vainqueur de la Coupe de l'indépendance du Ghana.
Oui, après un nul 0-0 au Baba Yara Stadium face à Ashanti Kotoko de Kumasi, son grand rival national lors du match retour, Hearts of Oak d'Accra gagne sur l'ensemble des 2 rencontres. Le match initialement prévu dimanche avait été interrompu par la pluie à la 75e alors que les 2 équipes étaient à égalité 1-1. Hearts of Oak avait remporté le match aller 3-1 en mai dernier à Accra.
Timothy Weah signe au Paris Saint-Germain.
Oui, le Paris Saint-Germain a officialisé hier le premier contrat professionnel de Timothy Weah, 17 ans, né à New York. Fils de l'ancien attaquant George Weah, Ballon d'Or 95, Timothy Weah a signé pour 3 saisons dans le club de la capitale française. Autre transfert, l'international guinéen Baïsama Sanko s'est engagé pour 3 ans avec le Stade Malherbe de Caen. Le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2018 avec Guingamp, où il a été formé, brille par sa polyvalence de la défense centrale au milieu de terrain en passant par le poste de latéral droit.
Le Sagan Show a commencé hier lors de la 3e étape du Tour de France 2017.
Effectivement, star du peloton, Peter Sagan, surpuissant, a signé son 8e succès dans le Tour, dont il est l'inamovible maillot vert depuis 2012. Le Britannique Geraint Thomas, 8e de l'étape, conserve le maillot jaune devant son chef d'équipe, son compatriote Chris Froome, pointé à la 12e seconde. La 4e étape, longue de 207,5 km, se court aujourd'hui et s'adresse avant tout aux sprinteurs.
Tennis pour terminer, hier, Andy Murray s'est rassuré dans le tournoi de Wimbledon.
Tout à fait, le numéro 1 mondial, gêné par des pépins physiques durant la préparation, a signé un retour gagnant sur son gazon fétiche de Wimbledon, où l'Australien Nicky Kyrgios 10 Munier a été contraint à l'abandon. Chez les dames, en l'absence de sa sœur Serena, enceinte, et de Maria Sharapova, blessée, la quintuple lauréate du tournoi, Venus Williams, fait partie des principales prétendantes au titre, malgré ses 37 ans. Son entrée en matière s'est globalement bien passée contre la Belge Elise Mertens, 7-6, 9-7 et 6-4.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, la situation sécuritaire reste volatile à l'intérieur du pays. Plusieurs régions sont encore secouées par les violences armées. Par exemple, des dizaines de personnes ont été tuées entre samedi et lundi. Le point sur la situation avec Freeman Sipila.
Les attaques contre les civils ont nettement augmenté ces derniers jours. Plusieurs régions du pays sont de nouveau passées sous contrôle des hommes armés. À Zemio, où la tension est encore vive, les corps jonchent le sol. La maire de la ville appelle à l'aide.
Depuis mardi passé jusqu'à aujourd'hui, les corps restent dehors. Donc le corps, ça commence pour dégager le gouvernement centrafricain. Vraiment, il faut sauver, il y a reste la population qui est au niveau des catholiques ou au niveau de l'hôpital général, HR aussi, une HR, CSR, pour aller là-bas pour ramasser le corps qui restait depuis mardi passé, qui est décomposé, commencé pour remonter jusqu'au niveau des catholiques. Et c'est ça, il faut vraiment prendre la responsabilité pour sauver les populations.
Le week-end dernier, au moins 15 personnes, parmi lesquelles une dizaine d'assaillants ont été tués à la suite d'une attaque d'un site des déplacés sécurisé par la MINUSCA à Kagabandoro. La mission onusienne promet une riposte appropriée en cas d'une nouvelle agression. Vladimir Montero, son porte-parole.
Il y a effectivement une attaque à Kagabandoro, mais la force de la MINUSCA ainsi que l'unité de police qui est déployée depuis hier contrôle les principaux axes de la ville et protège le camp des déplacés. Et grâce à cette posture robuste, les éléments armés ne sont pas parvenus à atteindre leur but dans la ville et nous continuons à assurer cette présence pour mettre en échec cette tentative. Nous faisons tout pour que la population ne souffre des exactions que ces gens s'apprêtaient à commettre.
Dans la préfecture de Lampindé, plusieurs villages aux alentours de Ngaoundaï sont investis dimanche et lundi par des hommes armés du MPC, Mouvement Patriotique Centrafricain, et de RJ, Révolution Justice. Le député de la région lance un cri de détresse. Bernard Dila.
Il y a deux jours de cela, il y a RG et MPC, ils sont allés, ils ont envahi deux villages à proximité de la ville de Ngaoundaï. Le village Mboum et le village Nzoro. Ils ont pris ce village, tout le monde est parti. Quand un groupe armé envahit un village, que vous le vouliez ou pas, il y a des dégâts même du point de vue des gens humanitaires, puisque toute la population s'enfuit pour aller dans la brousse. Les femmes enceintes vont vivre dans la brousse, les hommes qui sont malades vont vivre dans la brousse. Mais comment ça va se passer? Ils ont signé un engagement, ils n'ont qu'à respecter leur engagement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils nous disent la vérité, parce que la population commence à en avoir marre.
Cette spirale de violence surgit alors que les principaux groupes armés du pays ont signé le 19 juin dernier à Rome un accord dit entente de Saint-Étienne. Un accord politique pour la paix recommandant un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire centrafricain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Retour ce matin sur le sommet de dimanche à Bamako entre les chefs d'État du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron. Ils ont décidé de lancer dans les semaines à venir une force antiterroriste. Initiative fortement soutenue par la France. Au micro de Bagassi Koura, écoutons le ministre malien de la Défense, Tienan Koulibaly.
Le président français est venu d'abord soutenir le principe du G5 Sahel. Il a réaffirmé en tant que membre permanent du Conseil de sécurité que la France continue à soutenir la MINUSMA au Mali, donc la MINUSMA va continuer, que la France continue à aider à titre bilatéral le Mali dans la lutte contre le terrorisme en maintenant Barkhane au Mali, mais qu'en plus de tout ça, la France soutient l'idée de la mutualisation des efforts au sein du G5 Sahel. Il l'a dit d'abord à Gao le 19 mai. Il a demandé à rencontrer les 5 chefs d'État ensemble. Et c'est ça là le sommet de Bamako hier. Et hier, il a annoncé une contribution de 8 millions d'euros, c'est-à-dire ils vont fournir des véhicules, des équipements et tout ça. Le président a annoncé hier qu'à titre individuel, à titre bilatéral, il va entreprendre certains autres États européens pour que, en plus de la contribution de l'Union européenne, les pays individuellement et l'Allemagne en tête, eux aussi continuent à soutenir le G5 Sahel.
Quand on vous écoute, on vous entend parler de la France, de l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas un peu trop porté vers l'Occident, puisque vous ne mentionnez même pas l'Union africaine?
Alors, si je n'ai pas mentionné l'Union européenne, je me suis lourdement trompé, puisque, en vérité, lorsque les 5 pays se sont entendus, la première instance à laquelle ils ont présenté leur projet, c'est l'Union africaine. C'est donc l'Union africaine qui, en premier lieu, au mois d'avril, je crois, d'avril ou de même en tout cas, l'Union africaine qui, en premier lieu, a pris une résolution pour soutenir le G5 Sahel. C'est l'Union africaine qui a porté le dossier du G5 Sahel aux Nations Unies, où, puisque aux Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, c'est un membre permanent qui est toujours porteur du dossier, où la France a appuyé le dossier. Donc l'Union africaine est bien sûr avec nous.
Concrètement, sur le terrain, quand est-ce qu'on va voir les premiers soldats de cette force du G5?
Je vous dis d'abord comment ça va fonctionner. Le G5, c'est des soldats qui vont essentiellement se déployer aux frontières entre les États membres. Ça veut dire que il y a un fuseau, on les appelle des fuseaux, il y a un fuseau ouest du G5 Sahel qui va sécuriser la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Ça veut dire que des soldats vont être déployés de part et d'autre de la frontière jusqu'à 50 km de la frontière. Ça, c'est donc le fuseau ouest. Là, on aura la même chose au fuseau centre, c'est-à-dire frontière Mali-Burkina, frontière Mali-Niger, frontière Burkina-Niger. Et puis le fuseau est, c'est la frontière Tchad-Niger. Et donc, nous pensons que c'est bien avant la fin de l'année que tous ces soldats vont être déployés, Inch'Allah.
C'était Tienon Koulibaly, ministre malien de la Défense, joint à Bamako par Bagassi Koura.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le 29e sommet ordinaire de l'Union africaine a débuté hier à Addis Abeba. Durant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement qui y participent vont se pencher sur les conflits et crises frappant le continent africain, l'autonomie financière et l'investissement pour la jeunesse. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a voulu donner le ton en faisant don d'un chèque $1 million à l'UA, tiré de la vente aux enchères de 300 têtes de bétail. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar un spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Khan.
L'Union a décidé que maintenant 75% du financement de ses activités internes viendrait de son budget, que 25% de ses opérations de maintien de la paix viendraient aussi du budget. Et quand on regarde les projections qui sont faites à partir du pourcentage prélevé sur les importations, on a un budget de l'ordre de $1,2 milliard. C'est plus que le double du budget actuel de l'Union africaine. Donc on a des raisons d'espérer. Seulement, il y a le problème de l'Afrique du Nord. Vous savez que l'Afrique du Nord a toujours été un très grand contributeur au budget de l'Union africaine. Depuis quelques années, l'Égypte ne peut pas. La Libye, il n'y a pas d'État. L'Algérie se trouve engluée dans d'énormes difficultés financières.
Justement, les États africains sont incapables de prendre en charge leurs États. Est-ce qu'ils seront capables de prendre en charge toute l'Union africaine?
Oui, vu de l'extérieur et puis en s'appuyant sur cette expérience des États dans la gestion de leurs affaires personnelles, on peut en douter. Mais moi, en me fondant sur l'expérience de la CEDEAO, je peux dire que c'est faisable et que c'est très facilement faisable parce qu'au niveau de la CEDEAO, 11 des 15 États membres de la CEDEAO sont parmi les pays les moins avancés d'Afrique. Et pourtant, ils arrivent à contribuer à ce budget et la CEDEAO est la seule organisation africaine en ce moment qui a un budget qui est même supérieur à celui de l'Union africaine et qui ne reçoit que 5% d'aide annuelle pour boucler son budget.
Alpha Condé a émis le souhait d'un investissement pour la jeunesse.
N'oubliez pas qu'une bonne partie des changements auxquels on a assisté aussi bien en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, je pense notamment à la Gambie, je pense au Burkina Faso, tous ces changements sont dus aux jeunes. Et donner espoir à cette jeunesse, cela ne veut pas simplement dire faire des grands discours, mais c'est changer structurellement l'éducation, la formation, la santé. Ce sont ces secteurs qui donnent espoir aux jeunes. Vous savez, nos universités aujourd'hui, c'est de vieilles universités, c'est des universités qui ont été créées par le système colonial, qui jouent toujours la fonction que le système colonial leur avait assignée. Et donc, il faut qu'on transforme ces universités. Il faut que ces universités soient tournées vers le développement du continent. Le système éducatif dans sa totalité.
C'était l'analyste Ibrahim Khan, joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République démocratique du Congo, 11 000 personnes ont participé hier à un exercice de simulation d'une éruption volcanique à Goma. On se souvient que la capitale de la province du Nord Kivu avait été brûlée il y a 15 ans par une coulée de lave du volcan Nyiragongo qui avait englouti 13% de ses infrastructures. Le gouvernement congolais et ses partenaires ont déjà installé du matériel de surveillance de ces volcans se trouvant à moins de 20 km de Goma. Et ce lundi, la protection civile a réalisé une simulation d'évacuation de la population pour la préparer en cas de nouvelle éruption volcanique.
L'exercice de simulation a débuté par une sirène installée par l'Observatoire volcanologique de Goma sur la colline Mogoma. Comme prévu dans les plans de contingence et d'évacuation, c'est l'autorité politico-administrative qui l'a déclenché. Aussitôt déclenché, les habitants des quartiers ciblés par cette mise en scène ont emballé matelas, casseroles, en tirant certains de leurs animaux domestiques et jusqu'au point de chute installé vers le sud de la ville. En des groupes, par des colonnes, tous portant l'air bien, plus de 10 000 personnes ont marché plus de 4 km avant d'arriver au point de chute où un site a été aménagé pour la circonstance. Pour cet exercice de simulation, secouristes, infirmiers et la police, tous ont été mobilisés, question de se préparer s'il arrivait que l'un des volcans encore actifs et proche de la ville de Goma rentrait en éruption comme l'a été en 2002, l'a fait savoir le vice-gouverneur Feller Lutaichiwa.
Nous devons garder un langage avec le volcan. Ces sirènes-là doivent être connues de la population. Si jamais il y a éruption volcanique, qu'on puisse améliorer davantage notre plan de contingence qui pourra à la fois faire l'objet de l'adoption non seulement nationale, mais aussi de l'adoption sous-régionale. C'est pour ça que le Rwanda et l'Ouganda devraient être associés aussi et aux simulations qui devront suivre.
Les responsables de la protection civile zone est de la RDC pensent quant à lui que toute la population se trouva sur la zone des fissures tracée par le volcan Nyiragongo en RDC ou au Rwanda doit être vigilante. Joseph Makundi.
Aujourd'hui, c'est un exercice pilote pour comprendre un peu est-ce que la population de Goma s'approprie les risques volcaniques. Est-ce qu'elle connaît qu'elle est en face d'un risque ou qu'elle est entre les volcans et les gaz dans le lac Kivu. À travers la population, on a vu que réellement la conscientisation, elle est là. Donc 11 321 personnes ont été reçues ici, dans ce site.
Les volcans Nyiragongo, très actifs, se trouvent à moins de 20 km au nord de la ville de Goma et sa dernière coulée de lave remonte au 17 janvier 2002. Elle avait causé la mort d'une centaine de personnes en couvrant une grande partie de la ville de Goma et de son économie. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, pour prévenir, s'est doté des plans d'évacuation et de contingences ainsi que les matériels de surveillance de ces volcans actifs de la chaîne de Virunga. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique. We'll be right back.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sim Souloumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.